Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
Auditeurs et auditrices de la web radio du Rage, voix de jeunes, bonjour, Azul Flawen, nous devons rencontrer une autre fois dans ce nouveau numéro de la semaine d'octobre que la radio du Rage a organisé et organise du 30 septembre au 6 octobre à l'occasion du 30e anniversaire des événements d'octobre 88. Donc au cours de cette semaine, on reçoit à chaque fois des représentants de la société civile, des représentants de partis politiques, des militants, des syndicalistes et même des universitaires, sociologues, politologues. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur le plateau, une autre fois, Madame Fatiha Binabou, qui est professeure de droit à l'Université d'Alger et constitutionnaliste, qui fait des contributions pertinentes sur le côté constitutionnel. Et bonjour Madame, et heureux de vous rencontrer une autre fois.
Bonjour, moi-même je suis heureuse d'être avec vous sur le plateau.
Justement, donc le débat de cet entretien, ça aura autour des événements d'octobre 88. Donc vous, tant que constitutionnaliste, on veut bien parler un peu du côté des constitutions. Donc il y a le mouvement d'octobre 88, la société est sortie, et il y a la répression. Juste après, comme réponse des pouvoirs publics, des gouvernements à ce mouvement, à cette révolte de 88, il y a cette ouverture, la constitution 89, qui consacre l'ouverture, le pluralisme politique, la naissance des associations et des syndicats, la liberté de rassemblement. Donc, parlez-nous un peu des grands axes de cette constitution et quelle est la nouveauté de cette constitution par rapport à la précédente.
Oui, je dirais oui, c'est effectivement une constitution d'ouverture. Et je donnerai deux axes, une constitution d'ouverture et une constitution de crise. J'en parlerai en deuxième point. Constitution d'ouverture, effectivement, puisqu'il y a eu ce sont les silences qui sont bien plus pertinents que ce que dit la constitution. Le premier silence, c'est qu'on est passé d'un monocratisme partisan à un multipartisme qui va devenir par la suite débridé. Deuxième point, c'est qu'on est dans une société, dans une constitution programmatique, on est passé à une constitution loi. Et dans cette constitution-loi, il y a quelque peu une libéralisation de l'économie. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, il fallait que l'État se désengage. Il y a eu un désengagement de l'État, donc on a libéré...
Donc c'est en quelque sorte une réponse à la crise économique qui a secoué l'Algérie à l'époque.
Tout à fait, c'est pour ça qu'après je vais parler de constitution de crise. Donc je suis toujours dans cette ouverture. Alors quels sont donc, après les silences, quels sont donc les points importants qu'a apporté la constitution de 89 ? Sur le plan de l'organisation des pouvoirs, certains vont parler d'un dualisme de l'exécutif. Moi je dirais que c'est un dualisme beaucoup plus apparent que réel.
Ça veut dire entre le président et le chef de gouvernement.
Voilà. Au niveau du pouvoir exécutif, on introduit cette notion de chef du gouvernement et les gens disent, voilà, oui, mais effectivement, on a donc un bicéphalisme. Alors qu'auparavant, on avait un monocéphalisme, un seul président de la République qui avait toutes les attributions entre les mains. Donc, il y a ce que d'aucuns appelleraient un bicéphalisme, mais moi je dirais, j'apporterai une touche, je dirais qu'il n'est qu'apparent. Pourquoi ? Parce que quand vous lisez bien la Constitution, vous vous rendez compte que le président de la République, il trône au début du pouvoir exécutif. Ses pouvoirs sont très importants. Et non seulement ses pouvoirs sont décrits et très importants, mais il y a même une disposition qui est une disposition que très peu de gens ont vue, mais que j'ai beaucoup analysée, qui est l'article 83. Cet article, quand les gens le voient, ils disent « mais c'est du bricolage ça, du bricolage constitutionnel, qu'est-ce qu'il fait ici ?» C'est un article qui devait un peu, c'est-à-dire permettre au président de la République de ne pas voir la citadelle présidentielle démembrée. Garder ses pouvoirs, qu'on garde un peu la citadelle présidentielle quelque peu intacte. Qu'est-ce qu'il dit, cet article 83 ? Il dit, mais le président de la République ne peut pas déléguer. Et nous avons tout un listing, des pouvoirs très importants.
Ça veut dire ces pouvoirs-là qui sont listés et reviennent directement au président de la République.
Même lui ne peut pas les déléguer. Même s'il veut déléguer ses pouvoirs au chef du gouvernement, il ne peut pas. La présidence, quels sont ses pouvoirs ? Ses attributions ? La présidence du Conseil des ministres. Donc, le chef du gouvernement ne sera jamais président du Conseil des ministres. La nomination des ministres, du Premier ministre, des hautes instances, des personnalités des hautes instances, telles que les membres du Conseil constitutionnel, toutes ces nominations,
les
hautes instances, surtout les hautes instances, et aussi le référendum. Le référendum, la possibilité de faire un référendum, la possibilité de par exemple, la loi, la promulgation de la loi ne peut pas être attribuée, ne peut pas être déléguée à qui ? Au chef du gouvernement. Donc, c'est un chef du gouvernement qui va se retrouver en queue de liste, un peu vers, après plusieurs articles concernant le président de la République, un peu avec très peu d'attributions. Très peu. Il est un peu le responsable de l'administration, point barre. Il est pratiquement, on a l'impression que, c'est vrai, il y a un article qui est très important. Et c'est pour ça que j'ai dit que cette constitution est une constitution que j'appellerais une constitution, comme dit Carl Schmitt, il y a dans cette constitution un compromis dilatoire. C'est-à-dire que on ouvre et on laisse la pratique régler les problèmes qui sont laissés en suspens. Voilà, on va prendre un exemple de ces points qui sont importants. Par exemple, le chef du gouvernement, il a, dans la Constitution, on va vous dire, il a son programme politique. Quand il va devant la PN, on va vous dire, le président de la République, le chef du gouvernement
présente
son programme politique. Puis, on commence à introduire des termes qu'on n'a pas l'habitude d'introduire. Mais on se rend compte que...
Mais réellement, il n'y a pas ce programme, parce que toutes les attributions, elles sont données au président de la République.
Tout à fait, parce que vous vous rendez compte qu'on ne va pas parler de la politique. Parce que si on voulait véritablement qu'il ait un programme politique, on aurait fait un peu comme la Constitution française. On aurait dit, voilà, comme l'article 20, on dit, voilà, le chef du gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Pour avoir un programme politique, il faut pouvoir déterminer, avoir la possibilité de déterminer et de conduire la politique de la nation. Or, on ne lui donne pas cette attribution. On introduit des termes que l'on emprunte au libéralisme politique. On introduit la notion de majorité, on introduit la notion de toutes ces notions de parti politique, mais subrepticement, on se dit voilà, on va les introduire et on va laisser la pratique. C'est à elle de régler les problèmes D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, premier problème qui s'est posé, c'est avec la yarhamo Qasim Rabah. Alors, Qasim Rabah, quand je lis la yarhamo, vous voulez lire le limogé, il dit, mais c'est pas vous qui m'avez nommé. Oh, ben oui, il dit, moi je suis parti devant la PN, j'ai présenté mon programme. Présenter mon programme. Et on a même parlé, on a dit voilà, Atatlotskia, je n'arrive pas à trouver je deviens dyslexique, je n'arrive pas à trouver le mot en français. C'est l'APN qui lui a donné, qui lui a donné la possibilité d'être un chef du gouvernement. Alors que ce n'était pas vrai. Complètement. C'est ce qu'on appelle, en français, j'arrive plus à trouver ce mot, en arabe, c'est tzkiya. Il lui donne tzkiya. C'était faux, parce qu'il était déjà nommé par le président de la République, une fois qu'il était déjà nommé, et la nomination était sortie sur le journal officiel, qu'il se chargeait de préparer
un programme
qu'il allait présenter. Donc l'APN devait voter sur le programme. Et ce programme-là, on va pas vous dire que c'est, on va pas trouver une attribution dans la Constitution qui dit qu'il est chargé de conduire la politique de la nation, la politique intérieure.
Oui.
Donc elle reste entre les mains du président de la République. Puisque quand il prépare son programme politique, il va aller devant le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres étant présidé par le président de la République, c'est lui qui va arbitrer.
Justement, donc, toujours dans cette Constitution...
Bon, on n'a pas terminé.
Oui.
Bon, deuxième point qui est très important, c'est... on a enlevé... Il y a un point qui a été enlevé. C'est les ordonnances présidentielles. Pour une fois, on a enlevé au président de la République la possibilité de légiférer par ordonnance. Il n'est donc pas législateur par ordonnance. Ça, c'est un acquis quand même. Un acquis qu'on regrettera et qu'on réintroduira
dans
la Constitution de 1996. Troisième point, c'est effectivement l'ouverture, le multipartisme que j'ai appelé, que quand on lit la loi du 5 juillet 1989 sur les ACP, on se rend compte que c'est un multipartisme débridé, qui en fait vient décrédibiliser le pluripartisme. Pourquoi ? Quand on a besoin de 15 personnes, sans troupe, il n'a pas besoin d'avoir une troupe pour créer une association à caractère politique, on s'est retrouvé avec, à la longue, une fragmentation du champ politique. Et même la loi du 5 juillet 1989 avait donné une place privilégiée au FLN par rapport aux ACP.
Statut des ACP.
Qu'est-ce qu'elle disait la loi du 5 juillet 1989 ? Elle disait, voilà, le FLN n'est pas concerné par cette loi. Pour quelle raison ? On disait, parce qu'il a un statut historique. C'est le FLN historique. Donc, quelque part, il y avait un parti qui gardait un peu un monopole et un statut privilégié, de partis historiques, et une foultitude ou une multitude d'associations qui n'avaient pas de troupes, que personne ne connaissait. On connaissait même les sigles et j'en arrivais pas à aller. Mis à part quelques partis qui étaient depuis 63, tels que le FFS, le MDA, et le PRS, etc. Les autres n'étaient pas connus du public. Et donc, c'est à peu près... c'est vrai que... Au niveau des associations, au niveau plutôt des libertés publiques, il y a eu beaucoup de simplifications. On a permis la création d'associations, la possibilité de réunions, la possibilité de manifestations, etc. Au départ, en 89, les possibilités étaient réelles. En 91, on est venu un petit peu verrouiller un peu
avec le jeu.
L'état d'urgence. Avant l'état d'urgence, déjà, il y a eu une loi de décembre 91 pour verrouiller un peu les manifestations, parce qu'on s'est rendu compte que ça permettait à tout le monde de manifester, etc.
Justement, beaucoup de gens ont parlé sur l'état d'urgence qui est venu après. Il y a la Constitution, mais il y a des lois qui viennent, et l'état d'urgence
Il y a eu un état de siège, c'était en 88, il y a eu un état d'urgence en juin 91, et il y a eu le deuxième état d'urgence, c'était en février 92.
Voilà. Justement, ça veut dire sur le plan constitutionnel, est-ce que c'est...
C'est attentatoire aux libertés publiques.
Voilà, donc c'est anticonstitutionnel...
C'est pas anticonstitutionnel, puisque c'est la Constitution qui le prévoit. Mais
la durée et tout, donc...
Voilà, mais justement... Il y a des non-dits dans la Constitution. Les gens ne comprennent pas. Ils disent, voilà, oui, mais nous, on a ramené de la Constitution française. C'est faux. Parce que justement, c'est dans les...
Donc, ce n'est pas des failles, c'est des non-dits.
C'est des non-dits et les constitutions sont très intelligentes. Il ne faut pas croire.
Ça veut dire qu'elles se donnent la possibilité de faire des manœuvres...
Tout à fait. Donner des manœuvres, donner des possibilités. D'illimiter, on n'a pas limité le temps. Il n'a pas dit, voilà, l'état d'urgence doit demeurer 6 mois, 1 an, etc. On l'a laissé dans l'incertitude.
Ouvert.
Pour pouvoir illimiter l'action du président de la République. Qu'il puisse... Et c'est resté presque 20 ans. Combien, c'est ça, à peu près?
Oui,
20
oui,
ans.
Oui, jusqu'à 2011.
2011,
voilà. 2011. Et justement, ça veut dire, si on voit les constitutions en Algérie, depuis 62 à ce jour... On a 5 constitutions, pratiquement chaque président il a une constitution. Selon vous, c'est dû à quoi cette instabilité? Pourquoi on n'arrive pas à faire une institution? Si on fait des changements, on peut faire un changement d'un maximum, mais là on est 5 révisions de la constitution. Pourquoi cette instabilité?
Et bon, d'abord, je l'ai toujours dit, c'est-à-dire que les gouvernants ou les tenants du pouvoir sont incapables de prévoir le fonctionnement des institutions au-delà du court terme. Quand j'ai parlé tout à l'heure de la Constitution de 89, elle est venue, quand j'ai dit qu'elle était grosse, j'ai pas terminé, qu'elle était grosse d'une crise politique. On ne savait pas exactement si on donnait l'agrément au fils ce qui allait se passer. On ne savait pas ce qui allait se passer. Donc, là, c'est au bout d'un certain temps. Parce que j'aimerais bien revenir à cette constitution, parce qu'elle est quand même importante. Ce n'est qu'au bout d'une année, deux, qu'on s'est rendu compte que la société n'était pas en mesure. Parce que voilà, les réformateurs ont voulu donc ouvrir et changer aussi la légitimité. Ils voulaient introduire, parce qu'il y a eu des termes qui ont été introduits dans la Constitution de 89, c'est la majorité, la possibilité de qu'il y ait une légitimité populaire, électorale et populaire. Mais entre-temps, on était en train de changer la légitimité. Il y avait un soubassement. Les réformateurs voulaient changer la légitimité historique qui était venue à terme, hein, qui était à terme parce que toute une jeunesse ne comprenait pas, n'avait pas
le discours de la guerre de libération, la révolution.
Non, ne comprenait pas toute cette légitimité historique parce qu'elle est née dans l'indépendance, etc. Mais quand les tenants du pouvoir ont compris qu'il fallait céder la place, qu'il fallait céder la légitimité à la légitimité historique, il fallait substituer la légitimité électorale populaire, ils ont arrêté le jeu. Ils ont dit, arrêtons les frais. Pourquoi? Parce que, pourquoi? C'est pour ça que j'ai dit que c'est une constitution chrysogène, c'est une constitution qui a accouché d'une crise politique très grave. Est-ce que la société était-elle prête à cette ouverture politique? Ça, c'est très important de se poser. Parce que quand vous jetez la démocratie, quand la société est mature, quand elle est conscientisée, elle prend en charge la démocratie, et c'est elle qui va la défendre. Personne ne pourra l'empêcher de défendre ses idées. Or, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Mis à part des îlots de société civile, comme le sang, des partis de la Kabylie, etc., Oran, les autres étaient tous dans une logique communautaire, dans une logique d'unité, dans une logique qui devait unir tous les Algériens par un facteur religieux, l'islam. Or, une communauté politique dans un État moderne ne doit pas être régie par des allégeances communautaires, qui sont des allégeances primordiales, hein, de tribal, ethnique, etc. Elle doit être régie, une société civile, plutôt un État moderne, doit être régie par une allégeance citoyenne. Quelle que soit votre religion, votre langue,
culture.
Votre culture, etc., il y a une chose qui unit le citoyen à l'État, c'est votre statut de citoyen. Je ne m'intéresse pas à ce que vous avez comme religion. Débrouillez-vous.
Ça fait partie des libertés individuelles.
Ça fait partie de vos libertés individuelles, de votre liberté d'opinion. Et ça n'intéresse pas l'État. L'État est apolitique.
Voilà. Vous avez parlé d'un élément très important quand vous avez dit est-ce que la société était prête. Donc, grosso modo, on dit que la société sur place n'était pas prête pour.
Pas toutes. Il y avait des interférences de légitimité.
Voilà. Mais ce qui manque ici, est-ce que vous ne pensez pas que s'il y avait une volonté politique aussi de la part des décideurs? Bon, il y a les réformateurs qui ont...
Il y avait une volonté politique par les réformateurs.
Les réformateurs. Après, cette volonté politique, elle a été cassée par un autre clan qui sont venus après les réformateurs.
Moi, je pense que les responsabilités sont partagées.
Il manque cette volonté politique. Il n'y a pas uniquement que la société qui n'était pas vraiment prête globalement, mais aussi il y a manque de la volonté
politique. On va parler de dictateur éclairé, c'est ça. On va parler d'un dictateur éclairé, d'un dictateur qui va obliger un peu la société un peu à évoluer. Oui, ça peut
d'accompagner cette transition, ces réformes. Il faut un accompagnement.
Oui, mais moi, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Vous savez que, au contraire, les tenants du pouvoir de 62 jusqu'à maintenant ils sont toujours allés dans le sens, ils ont caressé le peuple dans le sens du poil. Hein. Vous êtes comme ça, on va.
Suit les sensibilités des différentes couches.
Ensuite, si vous n'êtes pas sorti, si vous n'êtes pas arrivé à la modernité, on va pas vous obliger à aller, il y a pas une dictature éclairée qui aurait pu un peu pousser la société un peu à sortir. Et là, parce que s'il y avait une dictature, on aurait commencé un peu par réformer l'école. Mais il y avait de très fortes résistances. Attention, hein. La société avait de très fortes résistances. Vous savez que déjà depuis 63, on avait des gens qui étaient embusqués, hein. La société était très résistante. Il y avait moi je me rappelle que nous en tant qu'Algériens, on était dans la code de la nationalité, on était régi par le statut de musulman. L'article 80 disait que on était Algérien parce qu'on avait un statut musulman. Et ça, cette notion de statut musulman, je me rappelle très bien, elle a été introduite par l'association des ulamas algériens. C'est un amendement qui a été imposé un peu par l'association des ulama et parce que la société était encore résistante.
Justement sur ces questions de l'identité du peuple algérien, donc on a mis dans la constitution qu'en quoi il faut, ça veut dire entre l'arabité, l'islam.
Ça c'est très nouveau parce que ça a été très critiqué. Je répète à chaque fois parce que j'ai été un peu touchée dernièrement. J'ai bien envie de le répéter. Ah oui, Jabarti, qui est une amie, m'a envoyé une vidéo sur Facebook où elle était en train d'interroger deux professeurs de sociologie. Et elle reparlait, elle leur disait mais Henri Maillot, Fernand Yvetot, Audin, etc. Cholet, etc. C'est des Algériens. Toutes les deux ont refusé comme ça du bonnet. Ils ont dit non, c'est pas des Algériens, c'est des amis de l'Algérie. Ils disent non, c'est des Algériens. Ils ont donné leur vie pour l'Algérie. Elle répète non. C'est des amis de l'Algérie. Pourquoi? Parce que dans la conscience d'une grande partie, je ne dis pas toutes, hein, au contraire, il y a bien des Algériens qui refusent cette... L'Algérien, c'est celui qui doit être d'abord musulman. On a parlé de l'article 43 du Code de la nationalité qui va être changé d'abord, dans le préambule de la Constitution de 96, où on voulait un peu sauver un peu des manipulations politiciennes, les identités, hein. On a dit voilà, les composantes de l'identité nationale, je dis dans le préambule, sont l'islam, l'arabité et la mazirité. Or, ce sont trois valeurs. Une valeur religieuse, une qualité ou une valeur religieuse, une valeur linguistique et une valeur ethnique. Nous appartenons, tout le monde sait que nous appartenons à une ethnie qui est la mazirité, les amazirs. Nous sommes amazirs. Bon, ils ont voulu la protéger, dire voilà, on va les protéger, on va les constitutionnaliser pour éviter qu'il y ait des manipulations politiciennes. Mais d'un autre côté, on enferme l'identité nationale dans ces trois constantes. On doit tous être musulmans, on doit tous être parler arabe, et ethniquement, on doit être berbère.
Mais là, aujourd'hui, il y a des Algériens qui ne se définissent pas ces trois constantes.
Donc, mais pourquoi? Parce que, quelque part, je l'ai toujours dit dans tous mes discours, les gens n'arrivaient pas à comprendre, j'ai toujours dit, l'État algérien n'est pas encore un État moderne. Il est dans une trajectoire de construction. Il est dans une trajectoire de construction pour arriver à un État moderne. Mais c'est un État que je qualifie d'un État entre deux âges. Un État qui a encore besoin de la légitimité religieuse pour se légitimer. Et c'est très clair, l'article 2 de la Constitution est clair. L'islam est la religion de l'État. Le président de la République doit être musulman, etc. Et là, ça signifie que quelque part, l'État est en voie de construction qui n'a pas terminé, et nous sommes encore à nous poser des questions sur la communauté politique qui doit être en Algérie. Quelle est cette communauté politique? Comment doit-elle être définie? Jusqu'à présent, on l'a définie par des valeurs ou des qualités de type religieuse, linguistique et ethnique. Il faut petit à petit se débarrasser de tout ça. Ça va rester des libertés publiques qui vont donc être du domaine de chaque personne. Débrouillez-vous! Mais vous voulez être... Bon, moi, ça ne me gêne pas, hein, je veux dire, entre nous, M. Falsaoui. Moi, je fais partie de ces Algériens. Je suis musulmane, sunnite, je parle l'arabe et je suis amazigh. Donc, j'ai ces trois qualités. Mais je dis que si nous gardons ces trois valeurs pour définir la communauté, nous allons finir par nous entretuer. Pourquoi? Parce que si quelqu'un n'est pas amazigh, parce que ce sont des valeurs qui constituent l'identité. Et les gens vont s'entretuer. Vous savez que pour la religion, on s'entretue. Pour la langue, on s'entretue. Pour l'ethnie, on s'entretue.
Déjà, si on remarque, toutes les crises qu'a secoué l'Algérie sont...
Pas simplement l'Algérie, voilà, mais tous les pays.
Autour de ces composantes.
Tous les pays qui sont en crise actuellement, leur crise tourne autour de la religion, de la langue et de l'ethnie.
Ça veut dire même l'Algérie, la question berbériste, elle a été soulevée, voilà. Le mouvement berbère en 80, la question de la religion, donc nous avons vu ce qui s'est passé durant les années 90. Donc il faut tirer des leçons que l'Algérie n'est pas un État jacobin.
Encore un État. Il faudrait aller dans le sens. Il faudrait aller dans le sens où, justement, on essaye un peu de se dire, oui, la société civile n'a pas besoin d'être unie autour de ces trois composantes. On peut être différent. On peut être différent.
Et vivre ensemble dans cette...
Et le vivre ensemble, c'est ça le vivre ensemble. C'est qu'on est différent, mais qu'on s'accepte. On a une volonté de vivre ensemble. Moi, je trouve qu'il y a par exemple des minorités, mais qui ne me viendraient pas à l'idée qu'ils puissent, se séparer de l'Algérie. Voyez, parce qu'ils font partie de nous, de notre nous. Et c'est pour ça que... Quand on a une communauté politique qui est régie par des liens citoyens, on n'a pas besoin d'être unis par ces trois composantes. On peut être chrétien, on peut être ibadite et ne pas aller insulter les ibadites. Les ibadites, c'est incroyable. L'Algérie, avant d'être sunnite, Elle a été presque chiite, elle a été fatimide. Les fatimides, le khalifa fatimide est d'abord né en Algérie avant d'aller au Caire. Donc, on va pas. Ce sont des constantes nationales qu'il faudrait éloigner du débat politique. La communauté politique doit être réglée par l'allégeance citoyenne. Il n'y a que le lien de nationalité algérienne qui nous unisse. Mais pour ça, il faut que l'école joue le jeu.
Oui, l'école a un rôle très important.
Oui, l'école, bien sûr.
Quand on vient aux constitutions, donc on parle des trois pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir...
Il n'y a jamais eu trois pouvoirs.
Législatif, justement, on arrive, et judiciaire. Donc, on veut bien avoir la relation qui existe dans les constitutions algériennes, bon, pratiquement dans toutes les constitutions autour de la relation qui existe entre ces trois pouvoirs.
On n'a jamais eu de séparation des pouvoirs jusqu'à l'heure actuelle.
Donc il y a toujours l'exécutif qui est monopole.
Il y a une prééminence. Il y a une prééminence de 62 jusqu'à l'heure actuelle. Alors, je reviens un peu de manière très, très rapide. 63, on a consacré le monocratisme partisan avec un présidentialisme, d'ailleurs que Duverger a appelé un présidentialisme très renforcé. 89, on n'a pas changé, puisqu'on a voulu un peu ouvrir, c'est-à-dire permettre un peu une délégation de pouvoir à l'exécutif et donner plus de pouvoir à l'APN, puisqu'on avait enlevé l'ordonnance, mais j'ai dit que c'était une constitution chrysogène de crise. Elle est morte dans la crise, puisqu'elle a donné naissance à la plus grave crise qu'a connue l'Algérie. Puisqu'en 92, elle a été enterrée. 92, elle a été enterrée, la constitution de 89. Elle n'est pas restée longtemps, même pas deux ans. 96, je dirais que c'est une constitution qui est venue apaiser les craintes qu'a suscité la constitution de 89. Et c'est pour ça que dans la constitution de 96, on a voulu régler tous les problèmes qu'a posé la constitution de 80. Si j'ai le temps, je vous l'explique. Si j'ai pas le temps, vous me dites, je vous l'explique pas. Pour revenir, pour vous dire tout simplement que 96, on revient vers... Bon, c'est vrai qu'on introduit un bicaméralisme, mais pour régler les problèmes de l'APN qui auraient pu être entre les mains d'une majorité anti-républicaine. Donc on l'a lesté d'une deuxième chambre, comme ça, on va la verrouiller.
Il y a le dualisme au sein
du... Un bicaméralisme, bicaméralisme juste pour lester la première chambre et éviter qu'il y ait des lois anti-républicaines. Mais avec les deux révisions constitutionnelles, les deux révisions, celle de 2009, et de 2016, on se rend compte que le pouvoir se reconcentre entre les mains du président de la République, exactement comme en 62. On n'a pas changé, il n'y a pas eu de changement. Il y a une prééminence présidentielle, et il n'y a pas d'autres pouvoirs. On les appelle des pouvoirs. Mais ce sont en réalité, ce sont des pouvoirs qui sont dépendants. Il n'y a pas une réelle séparation avec une autonomie de chacun.
Justement, ça veut dire que quand on observe un peu ces constitutions, donc il y a ceux qui disent qu'il y a des vides juridiques, il y a d'autres, comme vous venez de dire, ce n'est pas des vides. Par exemple, si on prend ce qui se passe actuellement au niveau de l'APN, avec le président de l'APN, donc il y a un blocage.
Il n'y a pas de blocage, non. Je vais vous dire, vous savez que les constitutions, je vous ai dit, on n'arrive pas à prévoir au-delà du court terme. Regardez bien. On ne s'est pas rendu compte, on s'est dit, voilà, nous avons la majorité, c'est encore le monolithisme partisan. Hein. Attention, c'est toujours le FLN qui est le seul parti. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Quand on s'est rendu compte que quelque part, il pouvait y avoir des divergences au niveau des hommes, parce que Bouhedja, c'est un homme du parti FLN. Mais comment on a inscrit dans la Constitution qu'il était président pour 6 ans. Mais il y a un problème qui s'est posé entre deux hommes. Entre Jamel Oulda Abbès, pour des raisons que tout le monde ignore, et Saïd Bouhedja, qui a été un militant du FLN pendant 50 ans. J'ai connu. On voulait le débarquer. On ne pouvait pas, parce que la Constitution...
Il est élu pour un mandat bien précis.
Bien précis. Et c'est un mandat national. Il n'y a pas une possibilité de le déchoir de son perchoir pendant 5 ans. On se dit, voilà, il va falloir dissoudre la PN. On pouvait la dissoudre, la PN. Il n'y a pas de vide juridique, vous voulez.
Non, ça veut dire, aujourd'hui, s'il ne veut pas démissionner, personne qui peut le faire démissionner.
Sauf
le président.
sauf si... Non, pas le président, pas du tout. Son parti.
C'est son parti.
S'il lui retire la confiance, s'il lui retrait de confiance, parce qu'il a été élu en tant que président, en tant que président de l'APN, sur la base des conseils, sur la base du vote majoritaire de son parti. On lui retire, il y a un retrait de confiance. Il n'a plus la confiance de son parti.
Dans le parti, retrait de confiance
au niveau du parti. C'est au niveau du parti.
Mais là, les députés ont retiré le...
Alors, je vais vous dire, c'est une erreur. La motion qu'ils ont... La motion n'existe pas. Parce que moi, j'ai bien analysé les motions, les résolutions, etc. Il y a les motions... La motion de défiance, elle ne concerne que le Premier ministre. Et la motion de censure qui ne concerne que le Premier ministre. On peut défier la confiance au Premier ministre, mais pas au président de l'APN. C'est déterminé. Les motions sont appelées, elles ont une appellation, un objet et des conditions. Elles sont déterminées aussi bien dans la Constitution que dans la loi organique. Donc on a inventé quelque chose qui s'appelle une motion et on est en train de bricoler.
Dans le même sens... la nouvelle constitution 2000.
C'est pas une nouvelle constitution.
2016.
Ce n'est pas une nouvelle constitution. J'aimerais
une révision. Ça veut dire
C'est une révision. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait une nouvelle constitution, même si on voulait une nouvelle, si on avait fait passer par le référendum.
D'accord.
Parce qu'il y a un article 7 de la constitution de 1996 qui vous dit le pouvoir constituant appartient au peuple. S'il avait fait passer par référendum, on aurait pu à la limite dire le peuple a donné une caution démocratique. Or, cette révision a été adoptée par un parlement réuni en ces deux chambres. Ce parlement a des pouvoirs de révision très limités. Il n'a pas un pouvoir souverain d'établir une nouvelle constitution.
Ça veut dire qu'il n'est pas une assemblée constituante.
Jamais.
Voilà.
Et il n'est pas habilité par la constitution à établir une constitution nouvelle.
Très bien, c'est un bon éclaircissement. Toujours dans la dernière révision, et ça veut dire qu'il est revenu à la limitation des mandats.
Oui.
Donc le président, il ne peut briguer que deux mandats.
Oui.
Actuellement, on revient, il y a un débat sur le cinquième mandat. Selon vous, ce deuxième mandat, le cinquième mandat, comment il est défini par la constitution actuelle? Est-ce que c'est le deuxième mandat ça veut dire qu'il a le droit.
Je viens de vous expliquer que nous ne sommes pas. C'est vrai qu'ils ont essayé de faire passer, de dire voilà, nous avons une nouvelle révision de la Constitution. Moi, j'ai été surprise d'aller visiter deux sites. Le site du Conseil constitutionnel, où on va vous parler de la Constitution de 2016. Et le site de la présidence, où on va vous parler de la constitution de 2016. Je viens de vous expliquer que sur un plan constitutionnel, c'est inconstitutionnel. Impossible de le faire passer. Impossible. Je dis parce qu'il n'a pas la caution démocratique. S'il avait eu la caution du peuple, s'il l'avait fait passer par référendum, le peuple peut toujours cautionner une révision et en faire une nouvelle constitution. Mais là, vous savez, en 96 et en 89, on a fait appel au peuple, c'était des référendums. Donc c'est pour ça que la constitution de 89 a été cautionnée par un référendum. C'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc nous sommes toujours dans la constitution de 96. Or, constitution de 96, il est depuis 99 à 4 mandats. Comment voulez-vous lui accorder encore un autre mandat? Il est déjà à 4 mandats. Il est déjà. Parce que, premièrement, attendez, vous allez comprendre comme c'est subtil le droit constitutionnel. Si on avait une nouvelle constitution, entre-temps, le président de la République aurait perdu sa légitimité. Parce que lui, il ne tire sa légitimité que de la constitution. Il a été élu sur la base de la constitution de 1994, le quatrième mandat. C'était sur la base de la constitution de 1996. Il a été élu, vous allez voir l'élection, c'est-à-dire, on va vous dire, vu la constitution, l'article temps de la constitution de 1996, etc., etc. Si on a un changement de constitution, il va y avoir un vide juridique. C'est là qu'il y a un vide juridique. Si J'ai bien dit ainsi, on aurait un vide juridique. Et le président de la République, il aurait perdu sa légitimité. Parce que c'est la Constitution, et elle-même, elle le dit, c'est la Constitution qui confère la légitimité au pouvoir public. Si la Constitution de 1996 avait été supprimée pour avoir une nouvelle Constitution, il va falloir refaire toutes les élections. Toutes les élections. Parce que il y aurait eu un vide juridique, il n'aurait plus eu sa légitimité. Or, il a conservé sa légitimité, de manière constante et continue.
Donc, c'est le cinquième mandat.
C'est le cinquième mandat. Voilà. D'ailleurs, eux-mêmes ne le disent pas que c'est un nouveau. Bon, il y a des députés qui ne connaissent pas très bien le droit constitutionnel, tout ce qui se passe. Vous savez que ça, c'est ce qu'on appelle le changement, c'est ce qu'on appelle la discontinuité étatique. On serait arrivé à une discontinuité constitutionnelle. Dans la discontinuité, ce qu'on appelle la discontinuité constitutionnelle, on aurait été obligé d'avoir une constituante qui aurait fait, quand on a un vide juridique, hein, quand on supprime la Constitution, c'est ce qui s'est passé avec la Tunisie. Il n'y a plus de constitution de 59, constitution tunisienne de 59. C'est le peuple qui revient. Echab, qu'est-ce qu'il disait le peuple tunisien? Echab yurid, le peuple veut. Ça n'a pas été le cas. Le peuple a été mis, il est resté en réserve. Donc ça signifiait que la constitution était dans la continuité. Nous sommes toujours dans la continuité. Il n'y a pas eu de changement constitutionnel, ça, je peux vous le démontrer sur un plan juridique. Hein. Et tous les juristes sont d'accord sur ça.
Justement, ça veut dire là, on est arrivé à la fin de cet entretien. Un bon entretien, un bon échange sur des questions très très importantes. Ça veut dire, vous, tant qu'institutionnaliste, quel est le système adéquat pour l'Algérie aujourd'hui qui répond sur le plan constitutionnel et institutionnel, qui répond aux aspirations et aux attentes du peuple algérien et à la société algérienne, sa composante, quel est le système politique adéquat?
Alors, je me rappelle ce que des gens ont posé comme question au sage Solon. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce qu'il nous faut comme constitution? Alors, il leur répond, pour quelle peuple et pour quelle étape de son développement, c'est-à-dire
les besoins
et l'étape de développement de la société algérienne. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Et si la société évolue, on est obligé de changer le texte. Il y aura des révolutions, qu'on le veuille ou non. Quand les conditions objectives arrivent à maturité, ça explose. C'est ça. Vous allez avoir des changements. Et ces changements, c'est quand les conditions objectives arrivent à maturité. Vous n'allez pas. Si pas, on ne fait pas une révolution par décret. C'est la trajectoire anthropologique de chaque peuple. Chaque peuple, à un moment donné, arrive à maturité. Je vous ai donné tout à l'heure en discussion le cas de l'Allemagne de l'Est. À un moment donné, quand la société allemande de l'Est est arrivée à maturité, la Stasi, Uma Adrakam à la Stasi, ne pouvait plus retenir la société. Ils ont détruit le mur de la honte, le mur de Berlin. Parce qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience, une conscientisation qui est en train de se faire. Mais petit à petit, il y a... C'est pour ça que c'est une société qui me fait peur. Parce que justement, on est très divisé. Et si on n'arrive pas, donc, c'est qu'il y a cette interférence des légitimités. Vous avez des gens qui sont pour une légitimité de type religieuse, vous avez des gens qui sont pour une légitimité de type démocratique, vous avez des gens qui sont pour une légitimité de type charismatique, qui veulent le grand chef qui tient les gens, qui cherche encore l'homme providentiel, etc. Et ces interférences font que, quelque part, une d'elles va finir par s'imposer. Il va y avoir, bien sûr, parfois il peut y avoir des guerres. Mais je pense que c'est pas moi de... Moi, je suis une observatrice de ma société. Je dis ce qui se passe.
Oui, bon, là, c'est une option. Ça veut dire que si la société bouge, fait quelque chose. Mais là, si la classe politique, avec le pouvoir en place, décide d'aller vers une constituante pour élaborer une nouvelle constitution.
Il faut d'abord conscientiser le peuple. Il faudrait... Moi, j'ai été surprise. Quand je suis partie en Allemagne, on m'a fait visiter l'Allemagne et tout. Et on m'a expliqué... J'ai fait une visite comme ça officielle et on m'a expliqué comment en Allemagne on a conscientisé, on faisait des écoles du soir pendant des années, des écoles du soir pour conscientiser les gens, pour leur expliquer ce qu'est la démocratie, comment changer tous les liens. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Il faut d'abord que les gens s'investissent.
S'impliquent,
oui. Qu'ils fassent des écoles du soir pour expliquer aux gens ce que c'est qu'une démocratie, etc. Mais si tout le monde attend, si l'école en elle-même reste une école, je dirais, fermée. Une école, parce que moi, je dirais l'école algérienne, vous et moi-même, j'ai été dans l'école algérienne. Hein. Moi, je suis une enfant d'Algérie, je suis une enfant du peuple algérien. Mais l'école des années 60 et 62 n'est pas la même que celle des années, que celle actuellement. Bon, mais c'est vrai qu'on essaye un peu de changer. L'école est très importante. C'est elle qui est le creuset qui forme la conscience citoyenne. Ce creuset, vous avez cette école, elle est l'enjeu. Elle est l'enjeu d'une idéologie qui résiste, qui ne veulent pas que cela change. Donc, tant qu'il y a des enjeux, il faudrait qu'on arrive donc à libérer au moins l'école. Parce que moi, j'ai fait partie de l'école algérienne et cette école algérienne ne m'a pas empêchée d'être musulmane, d'être pratiquante. Hein, je suis pratiquante. Pourtant, on n'avait pas ce problème-là. On n'avait pas l'idéologisation.
Avant, mais là, ça commence surtout oui. Durant les années 90, surtout d'une réforme à une autre. Donc, quand même, ça a contribué à...
Ils ont commencé à comprendre.
À détruire un peu l'école, a contribué à détruire certaines valeurs au niveau de la société algérienne.
Parce qu'elle a été, elle est prisonnière de l'idéologie. C'est pas une école.
L'école doit être indépendante de l'idéologie.
Ah,
doit
oui,
être une école moderne.
Désidéologisée. Complètement désidéologisée. Pardon. Excusez-moi.
Merci Madame Fatiha Binabou, juriste, professeure de droit à l'Université d'Alger et constitutionnaliste pour cet entretien. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est arrivé à la fin de cet entretien. Auditeurs et auditrices, on vous donne rendez-vous avec un autre entretien. Au revoir.
Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.